acheter une viande type halal viendrait indirectement financer un culte.
On sait qu'on fait un métier de rapport de confiance. Il y a une perte de repère, une perte de confiance envers l'institution.
Il ne faut pas non plus faire de ce temps-là un temps de crispation, en fait.
À l'occasion du mois de la laïcité, la Ligue de l'Enseignement, un immense réseau d'associations d'éducation populaire, vous propose une série de podcasts sur cette notion souvent mal comprise, mal aimée ou mal transmise. Je m'appelle Apolline, je suis journaliste, et dans cet épisode, j'ai discuté avec Diane Hardy et Christophe Hébert du respect de la laïcité en restauration collective. Diane Hardy est salariée de la Ligue de l'Enseignement et chargée de mission pause méridienne et restauration au niveau national, et Christophe Hébert est directeur d'une cuisine centrale qui produit 1100 repas par jour, directeur du pôle éducation, restauration et loisirs d'une commune de 8000 habitants, et président de l'association Agores, qui regroupe les directeurs de la restauration publique territoriale de 3000 collectivités partout en France. Bonne écoute sur S'associer pour agir, le média de la Ligue de l'Enseignement. Avant de parler de laïcité au sein de la restauration collective, il faut d'abord comprendre l'étendue des missions de ce service public. On peut identifier trois missions principales. Une mission éducative, faire de la pause méridienne un moment éducatif pour être dans la continuité d'une journée scolaire. Une mission sociale et sanitaire, assurer une alimentation quotidienne et saine aux enfants. Et une mission politique qui est plus récente, relever les nombreux défis environnementaux qui s'imposent au secteur, passer vers une alimentation moins carnée, éviter le gaspillage, assurer le tri des déchets, etc. C'est Christophe qui nous explique plus en détail ce que ce temps de restauration collective est censé assurer aux écoliers et aux étudiants.
D'abord, légalement, il s'inscrit dans la continuité de la journée scolaire de l'enfant. Donc c'est un temps éducatif au sens large, hein, puisqu'on va parler d'intégration, de socialisation, de connaissance des produits, des filières. On utilise souvent la phrase de « apprendre à manger comme on apprend à lire », ce qui montre bien ce lien avec l'école, avec ce temps d'éducation. Initialement, malgré tout, la restauration collective, son rôle, c'était une mission nutritive. Ça permettait aux enfants d'avoir le ventre plein pour suivre les apprentissages de l'après-midi. Il y a aussi une mission de santé publique qu'il ne faut pas oublier, qui est celle d'apporter, dans le cadre de la mission nutritive, un repas équilibré, complet, qui parfois est le seul repas de la journée pour un certain nombre d'enfants. Hein. Donc mettre en exergue ce caractère social de la restauration collective, qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui dans le contexte inflationniste et de baisse du pouvoir d'achat des ménages, et notamment les plus défavorisés. Et puis aujourd'hui est venu se greffer autour de cette mission principale d'autres enjeux qui sont des enjeux politiques, environnementaux, économiques, enfin voilà, différents enjeux qui tournent autour de la gestion de la pause méridienne par les collectivités locales, notamment les questions de lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri sélectif, enfin voilà, ce type de démarches qui peuvent être entreprises. Et puis, bien évidemment, au-delà de tous ces aspects un peu techniques, je dirais qu'il y a la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire faire de ce moment un temps de plaisir, de découverte, pour appréhender l'après-midi scolaire qui s'offre aux enfants.
Le sujet de la laïcité dans la restauration collective se cristallise autour des menus, puisque certains enfants pratiquants ont des régimes alimentaires particuliers. Aujourd'hui, les collectivités locales sont complètement indépendantes dans l'élaboration des menus. Le fait de prévoir un menu ou un autre en raison des pratiques confessionnelles des enfants, et donc de leur régime alimentaire, ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités. En fait, la seule chose qui est complètement interdite par la loi pour un service public comme la restauration collective, c'est de financer un culte ou un autre. Diane nous décrit ce principe juridique et la façon dont il s'applique dans les cantines.
Eh ben, c'est la loi du 9 décembre 1905, de séparation des églises et de l'État. L'État n'a pas vocation à financer un culte et un service public comme de la restauration. Acheter une viande type halal viendrait indirectement financer un culte, puisqu'elle est halal parce qu'on fait intervenir un sacrificateur et qu'il y a une rémunération de cette personne-là et que ça a forcément un coût sur la viande. Donc une collectivité, par exemple, qui viendrait acheter une viande comme ça, viendrait subventionner un culte indirectement. De par la séparation des pouvoirs, la neutralité du service public fait qu'on n'a pas à s'orienter sur un achat comme celui-ci. Et c'est clair et c'est défini, en fait.
Alors si c'est aussi simple que ça, pourquoi on a entendu tant d'histoires il y a quelques années sur la laïcité à la cantine ? En 2014, par exemple, à Sargé-l'Ellement, une commune de 3000 habitants dans la Sarthe, le maire décide d'arrêter de proposer des repas de substitution à la cantine les jours où il y a du porc au menu. Et l'affaire prend une ampleur médiatique nationale.
Sortie de l'école, direction la cantine municipale, où 220 élèves du public comme du privé viennent prendre leur repas. L'affaire de la cantine occupe les conversations des parents d'élèves. Fini le plat de substitution les jours où il y a du porc. La décision du maire est unilatérale et il en a parfaitement le droit.
L'école est laïque, donc ça peut se comprendre. Mais voilà, est-ce que c'est pas un peu la discrimination quelque part, sans parler de laïcité ?
Ça permet aussi à des gens, notamment de confession musulmane, qui pouvaient venir manger à la cantine, de socialiser, de sociabiliser avec d'autres personnes. Donc c'était aussi un moyen d'ouverture et de côtoyer ses petits camarades. Donc maintenant, on va les obliger à rentrer chez eux pour manger.
Je pense que faire un deuxième repas, surtout pour une minorité d'enfants, ça ne devait pas être trop compliqué.
27 élèves sont concernés en raison de leur confession musulmane. Le fournisseur de la cantine précise que ces assiettes différentes n'augmentent pas le coût du repas. La municipalité, dépassée par l'ampleur de la polémique, refuse de nous recevoir et livre désormais ses explications par téléphone.
La collectivité n'est pas tenue de préparer ou d'offrir des repas en fonction des convictions religieuses ou philosophiques. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de discrimination, tout le monde sur le même pied d'égalité.
Trop de laïcité tuerait-il la laïcité ? Les associations de parents d'élèves du public comme du privé sont parfaitement d'accord sur ce point.
On l'a dit au début de cet épisode, et c'est rappelé dans le reportage, comme tout service de restauration publique, cette cantine n'a aucune obligation de proposer un menu de substitution à un repas qui comporte du porc. Mais ce qui est dommage, selon Diane et Christophe, c'est qu'en faisant ce choix, elle exclut délibérément les élèves de confession juive ou musulmane. Et donc elle ne remplit pas la mission éducative, sociale et sanitaire dont parlait Christophe il y a quelques minutes.
Le service public, il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Mais malheureusement, des fois, on a des collectivités qui ont des pratiques politiques qui peuvent se définir comme étant excluantes en fait avec leurs usagers. Parce que l'enjeu, il n'est pas que nutritionnel aussi, il est aussi la mixité sociale, la socialisation, le vivre ensemble. Et malheureusement, quand l'offre alimentaire ne répond pas aux usagers, on en met de côté aussi certains qui rentrent chez eux, qui ne participent pas à ces temps de collectivité, de pause et de vivre ensemble, quoi. Donc ça questionne en fait.
En fait, à l'époque où ce reportage est tourné, le sujet de la laïcité dans la restauration collective est assez clivant. Il faut dire qu'à cette période, des associations confessionnelles font pression auprès des élus pour réclamer des repas conformes à leurs pratiques alimentaires, de la viande halal ou cachère par exemple, ce qui est illégal. Et c'est à ce moment-là que certains élus commencent à se crisper. Christophe nous raconte les différentes solutions qui sont alors évoquées lors des débats entre maires. La première, c'est le repas de substitution, tel qu'il existe et qu'il est pratiqué depuis toujours. Ensuite, il y a la suppression du repas de substitution, comme c'est pratiqué par le maire à Sargé-l'Ellement. Et puis, il y a aussi une solution intermédiaire qui consiste à compenser avec plus de légumes lorsqu'un élève ne mange pas de porc.
De fait, ça a démuni un certain nombre d'élus et de techniciens qui ne savaient pas quoi répondre à cette demande qui, effectivement, était hors la loi. Les pratiques de la substitution existaient quasiment partout en France, sans que ça pose de problème à personne. On substituait le porc à autre chose. En tout cas, du coup, ça a renforcé l'idée qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui étaient les détenteurs d'une laïcité tolérante, ouverte, etc. Et ceux qui, finalement, alors soit par hésitation, soit par peur, soit par contrainte aussi, parce qu'il y avait des personnes vraiment un peu agressives sur le sujet, qui se sont réfugiées derrière les principes de la laïcité au sens strict des choses. En rappelant que la restauration n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'effectivement, pour les familles qui se présentent à la restauration, si le menu leur convient pas, elles peuvent très bien rester chez elles. Voilà, c'était un peu ce que pensaient les maires. Certains maires ont avancé l'idée aussi qu'à défaut de substitution, on pouvait proposer un peu plus de légumes. Certains maires, dont l'ancien président de l'AMF, avaient trouvé juste de dire ils mangeront pas cette viande-là ce jour-là parce que leur religion l'interdit, on va pas les en empêcher. Par contre, on veillera à ce qu'ils aient une assiette plus remplie de légumes, etc., pour compenser.
Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables juives et des tables musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc. Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça, la République.
Moi, ce que je rappelle, c'est que l'objectif quand même principal d'une restauration collective, publique, c'est d'apporter un repas équilibré, de qualité, à tous les enfants, et puis de veiller à leur inculquer des connaissances sur l'équilibre alimentaire, sur la variété, etc. Et que donc, en arrivant à une solution où finalement on apporte un ersatz de repas équilibré, on passe à côté hein, finalement de l'objectif, alors qu'on peut très bien trouver des fabrications qui répondent en fait à tous les enjeux, tout en étant équilibrées et de qualité.
Mais à l'heure actuelle, presque 10 ans après cet événement dans la Sarthe, qui avait alors lieu dans beaucoup d'autres cantines en France, le sujet de la laïcité dans la restauration collective n'est plus du tout aussi crispant. Il a été en partie réglé grâce à la loi Egalim de 2018, qui ne porte pas du tout sur la laïcité, mais sur la mise en place d'une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment via la restauration collective. Il s'agit donc d'objectifs sanitaires, sociaux et surtout environnementaux. Et l'une des mesures instaurées par cette loi constitue en fait une réponse aux situations qui pouvaient poser problème vis-à-vis de la laïcité dans la restauration collective. Christophe et Diane racontent comment le sujet de la laïcité en restauration collective a été quasiment effacé grâce à l'instauration du repas végétarien hebdomadaire.
La laïcité est un problème qui a traversé la restauration collective ces dernières années, il est vrai, mais qui depuis quelques années, je dirais depuis 2017-2018, a été supplanté par l'approche de la loi Egalim et les états généraux de l'alimentation. Et s'il est vrai qu'on en a beaucoup parlé entre 2013 et 2017, aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu plus rentré dans les mœurs, on va dire, qui est un petit peu moins un sujet d'actualité. Quand on regarde aujourd'hui où on en est par rapport à ces images, aujourd'hui, on a un repas dit végétarien qui est servi de manière obligatoire une fois par semaine. Donc cette question du repas finalement sans viande a été détournée pour répondre à d'autres enjeux plus politiques, en fait, puisqu'il répond à tous les convives, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs motivations philosophiques ou autres.
Et aujourd'hui, les sujets autour de l'alimentation en restauration collective sont effectivement non plus culturels, mais plutôt culturels, avec ces alimentations plutôt idéo-philosophiques qui sont vraiment en lien avec le végétarien, le moins de viande, la viande de qualité. Et effectivement, la réponse aujourd'hui de la loi Egalim vient déjà éliminer ces problématiques qui pouvaient être récurrentes en fait dans la restauration collective, puisque le menu végétarien permet aussi de répondre quand même à pas mal de questions, ou en tout cas de demandes de la part de l'usager, qui sont surtout en lien à des demandes culturelles.
Le repas sans viande s'apparente donc à une solution magique pour la restauration collective, puisqu'il répond simultanément à des problématiques économiques, environnementales, sanitaires et laïques. Et il permet donc à ce service public d'assurer plus sereinement sa mission. Plus sereinement parce qu'à force de polémiques dans les cantines, la laïcité est devenue un sujet craint par les agents de restauration, qui peuvent se retrouver, en voulant bien faire, à stigmatiser des enfants, en les installant sur une table à part, par exemple, ou en les faisant passer dans un second temps, pour être sûr de ne pas leur servir un repas qui ne convient pas. Pour Christophe, cette crainte des agents de restauration qui essayent de faire leur travail au mieux démontre que la confiance des usagers envers le service public s'est dégradée. C'est donc sur ce lien de confiance envers les institutions publiques qu'il faut travailler.
On a effectivement des professionnels qui essayent d'être bienveillants et qui finalement engendrent une certaine forme de discrimination ou de malveillance. Voilà, ils pèsent par excès parce qu'en fait, il y a un vrai problème avec les familles qui est, je pense, un manque de confiance sur l'institution en tant que telle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans les rapports humains et on sait qu'on fait un métier de rapport de confiance, hein, puisqu'on nourrit des personnes. Ce rapport de confiance, il a été perdu en fait. Mais en tout cas, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la question des repas alternatifs liés à une confession, il y a une perte de repère, une perte de confiance envers l'institution pour répondre, alors que l'institution répond depuis des années. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, et ça, pour remonter la pente, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'il n'y a que dans le dialogue qu'on peut finalement expliquer comment on travaille, quelles sont les lois, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, etc.
Mais en parallèle, il faut aussi accompagner les agents de la restauration collective. C'est ce que fait Diane en les formant au quotidien et en dédramatisant ce sujet de la laïcité dans la restauration collective.
On a des choix effectivement politiques, on en parle, ça c'est des choix politiques, mais entre les deux, entre les choix politiques et l'usager, eh ben, il y a des professionnels, il y a des techniciens, il y a des agents de restauration. Et en fait, ces agents de restauration, on ne les a jamais accompagnés non plus sur ce que c'était aujourd'hui que l'usager et ce que c'était aujourd'hui que leur métier. Et donc, moi qui travaille avec eux, je sais qu'on est régulièrement en train de travailler aussi sur leurs bonnes pratiques, les bonnes postures et comment je m'adapte à mon convive et comment je l'accompagne aussi ce convive. Parce qu'ils ont peur de mal faire. Et donc, c'est comment trouver et comment les accompagner à se dire qu'il ne faut pas non plus faire de ce temps-là un temps de crispation, en fait. Il faut le rendre le plus fluide possible. Et donc, c'est de la formation et de l'accompagnement. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. C'est travailler sur de la formation et l'accompagnement et ne pas oublier ces agents de restauration. C'est déjà partir de savoir, eux, leur représentation, les faire verbaliser aussi leurs difficultés. Et puis, après, dédramatiser aussi ce que c'est que la laïcité. Il n'y a pas d'enjeu sanitaire. Alors qu'en fait, les enjeux ne sont pas du tout pareils et les conséquences ne sont pas les mêmes du tout. Donc, il faut savoir dédramatiser et remettre un peu d'humain là-dedans. Et ça, c'est... Il faut verbaliser les choses.
Merci beaucoup à Diane Hardy et Christophe Hébert pour leurs réponses sur le sujet de la laïcité dans la restauration collective. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à consulter la section « Pour aller plus loin » sur le site laligue.media. C'était le dernier épisode de la série « La laïcité par la Ligue » qui vient clore le mois de la laïcité. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette série, merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur S'associer pour agir.